Ici Annie Quentin. Aujourd'hui, nous recevons Catherine Ménard.
Bienvenue à Facteurs humains, le balado. Pensé et réalisé par la Faculté des lettres et des sciences humaines de l'Université Laval, cette chaîne vous fait entrer dans les coulisses de la recherche et de la création pour y rencontrer des passionnés de la découverte. D'épisode en épisode, sur le mode de la vulgarisation, jetez un regard nouveau sur le monde avec nos invités, découvrez les questions qui animent leurs projets, voyez tout l'impact des lettres et des sciences humaines sur la société et le savoir.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à notre co-animatrice, Mélanie Boutin.
Bonjour.
Bonjour à notre invitée, Catherine Ménard, professeure de didactique du français langue seconde au département de langue, linguistique et traduction.
Bonjour.
Bienvenue à Facteurs humains.
Merci.
Catherine, vos travaux portent sur l'apprentissage du français langue seconde et plus particulièrement par les élèves allophones issus de l'immigration. La question de la francisation est des plus actuelles. Elle fait souvent la manchette. J'ai toutefois l'impression que votre discipline, elle, reste moins connue. Qu'est-ce que la didactique du français langue seconde?
La didactique du français langue seconde, comme d'autres didactiques, la didactique des mathématiques, de l'univers social, elle s'inscrit dans le champ plus large de la didactique, qui est une science, une discipline qui s'intéresse à faire des liens entre trois pôles, celui de l'enseignant, celui des apprenants et celui des savoirs. Donc, dans la discipline, on s'intéresse à, aux relations entre ces pôles-là et donc aux manières de favoriser l'enseignement-apprentissage de certains savoirs. Dans mon cas, il s'agit de savoirs liés au français langue seconde, appris notamment par les élèves allophones issus de l'immigration dans les écoles francophones québécoises.
Et qu'est-ce qui vous a mené à choisir cette discipline?
En fait, moi, j'ai fait un baccalauréat en enseignement du français langue seconde à l'Université de Montréal avant d'être engagée ici à l'Université Laval, en fait, bien avant, parce que j'avais envie de m'ouvrir différentes possibilités, d'enseigner le français tant au Québec qu'à l'étranger, ce que j'ai fait un peu, mais je me suis vite rendu compte que ce qui m'intéressait surtout, c'était l'enseignement aux élèves issus de l'immigration, aux élèves qui reçoivent des services qu'on va dire d'accueil ou de francisation. Donc, je sentais que j'étais à ma place, mais pas tout à fait encore sur mon X, jusqu'à ce que je rencontre Françoise Armand, qui est professeure au département de didactique à l'Université de Montréal et qui est devenue ma directrice de maîtrise et une de mes directrices de thèse. Donc, je suis rentrée dans le bureau de Françoise un jour. Elle m'a expliqué ce que c'était la recherche en didactique, puis elle m'a fait un dessin pour m'expliquer comment ça se passait, une maîtrise en didactique avec une bouteille de champagne à la fin du processus. Et puis, je suis ressortie de son bureau avec une idée de projet de recherche en lien avec ses travaux à elle, où j'aurais l'opportunité d'avoir les deux pieds sur le terrain, mais aussi de faire une recherche scientifique qui demandait des lectures, de la réflexion. Puis, c'est là que l'aventure a commencé. Puis, me voici donc 10 ans plus tard.
Dites-moi, Catherine, est-ce que vous pourriez définir ce que vous entendez par élève allophone?
Oui, élève allophone, en fait, c'est un terme qu'on utilise dans le système scolaire québécois, puis au Québec plus largement, pour décrire les élèves qui n'ont ni le français, ni l'anglais, ni une langue autochtone comme langue maternelle. Donc, parmi les élèves qui reçoivent des services d'accueil et de soutien à l'apprentissage du français, on retrouve principalement des élèves allophones et des élèves qui sont issus de l'immigration. Ça va souvent ensemble, mais pas tout le temps.
Merci.
Et pourquoi avez-vous choisi de travailler avec les élèves allophones?
C'est une bonne question. Je pense que ce qui m'a attirée tout d'abord vers l'enseignement du français, par exemple en classe d'accueil, donc dans les classes où on reçoit les nouveaux arrivants, c'est toute la richesse qui s'y trouve. Moi, j'avais beaucoup, comme étudiante au baccalauréat, l'idée de transmettre la passion du français. J'avais un amour pour la langue, puis je me suis vite rendu compte que, en fait, ça devait être réciproque. Donc, c'est toute la richesse qu'amènent ces élèves-là qui est fascinante. Et puis, justement, j'en parlais plus tôt dans mes travaux de recherche au cycle supérieur que j'ai fait sous la direction de Françoise Armand. Il y était beaucoup de questions d'approche plurilingue. Puis c'est là que ça a donné vraiment, le fait de travailler là-dessus, tout un sens aux travaux que je mène maintenant comme professeure et que j'ai menés avant comme étudiante.
Et ces travaux, quelle forme prennent-ils? Est-ce que vous pouvez nous décrire une recherche type?
En fait, les recherches typiques en didactique du français langue seconde auxquelles moi je m'intéresse ou que moi je peux mener, ce sont surtout celles qui partent de besoins du milieu. Donc, des recherches qui servent, si je peux dire comme ça, à trouver des réponses à certains besoins dans les milieux scolaires. Donc, par exemple, des recherches actions où on va identifier un besoin dans les milieux scolaires qu'on va documenter à travers des liens avec des partenaires du milieu, mais aussi naturellement avec des textes scientifiques, par exemple. Par la suite, avec les gens dans les milieux scolaires, on va essayer de trouver des solutions, en fait, peut-être des dispositifs, par exemple, d'enseignement à expérimenter pour voir à quel point ils répondent aux besoins du milieu. Puis, on va évaluer les effets de ces dispositifs-là. Ça peut être tant sur les apprentissages des élèves que sur, par exemple, le développement professionnel des enseignants. Donc ça, c'est une forme de recherche qui m'apparaît particulièrement intéressante et pertinente. Bien entendu, il y a aussi d'autres types de recherches qui sont intéressants. Par exemple, des recherches où on va aller décrire les pratiques des enseignants pour faire ressortir leur savoir d'expérience sur certaines thématiques.
Est-ce que vous travaillez particulièrement avec les élèves directement dans le cadre de vos recherches ou avec les enseignants ou c'est un mélange un peu des deux?
Je pense que c'est un mélange des deux. Moi, ce qui m'appelle là-dedans, c'est vraiment d'avoir les deux pieds dans le milieu, dans les milieux scolaires. Ça peut se faire tant par le biais d'un travail avec les enseignants que par le biais d'un travail directement avec les élèves. Souvent, ça dépend du type de recherche qu'on mène, des objectifs et de l'intérêt des enseignants aussi à embarquer dans un projet. Mais je pense que les projets qui vont avoir des effets les plus pérennes dans les salles de classe, c'est ceux où on travaille intimement avec les enseignants pour expérimenter, par exemple, certains dispositifs auprès des élèves. Et c'est là que nos travaux laissent le plus de traces dans les milieux parce que les enseignants, après, sont équipés, sont outillés, ont plus envie de réinvestir ce qu'ils ont pu développer dans le cadre de recherche.
Et quelle forme ces retombées peuvent-elles prendre concrètement?
Concrètement, je pense que ce qu'on voit le plus immédiatement, c'est les retombées que ça peut avoir chez les élèves quand ce qu'on essaie, ça fonctionne. Donc, c'est sûr que les participants aux recherches en tirent, enfin, on l'espère, hein, on le souhaite, des retombées positives d'une façon assez rapide parce qu'ils participent directement à l'expérimentation qu'on mène. On espère que ça peut avoir une influence à long terme sur les apprentissages des élèves, même si bien souvent on ne peut pas le documenter pour différentes raisons. Ensuite, je pense que les autres effets les plus pérennes qui se manifestent à plus long terme, c'est ceux qui sont associés au renouvellement de pratiques des enseignants ou aux réflexions des enseignants qui, par la suite, vont donc mobiliser ces nouvelles réflexions-là dans leurs pratiques quotidiennes. Mais il y a sans doute aussi des retombées très concrètes en formation des enseignants, que ce soit en formation initiale des futurs enseignants à l'université ou encore en formation continue des enseignants, des acteurs scolaires sur le terrain, parce que on apprend beaucoup quand on mène ces recherches-là. On développe beaucoup de savoirs en tant que chercheurs aussi. Ces savoirs-là sont impulsés grâce aux enseignants qui prennent part aux recherches. Et tout ça, bien, c'est donnant-donnant, en fait, entre l'université puis les milieux de pratique. Donc, je pense que c'est peut-être une autre manière d'engendrer des retombées positives à partir des recherches, là.
Et est-ce que c'est vous qui faites appel au milieu scolaire ou c'est le milieu scolaire qui fait appel aux chercheurs?
Je pense que ça dépend des milieux, ça dépend aussi de l'histoire du chercheur dans les milieux. Les milieux que je connais davantage vont peut-être venir vers moi avec des idées particulières. Maintenant, dans mon rôle de nouvelle professeure à l'Université Laval, il faut aussi un peu aller dans l'autre sens pour se faire connaître puis aller trouver des gens qui sont interpellés par ce qu'on leur dit puis qui ont envie de se lancer dans des collaborations. Mais je pense qu'à long terme, l'idée, c'est que ça vienne des deux sources, que ça se passe dans les deux directions. Donc, que le chercheur se sente à l'aise d'aller proposer certaines idées sur le terrain et de sentir que le terrain, les milieux de pratique scolaire sont ouverts à ça, mais aussi que les acteurs scolaires ne soient pas intimidés par le fait d'aller cogner à la porte des chercheurs pour leur poser des questions puis leur proposer des partenariats. C'est un peu mon idéal dans la recherche, que ça se fasse dans les deux directions.
Comment réagissent les élèves des classes où vous menez vos recherches? Est-ce qu'ils sont curieux, méfiants, enthousiastes? Comment s'établit le lien avec eux?
Les élèves sont des êtres humains comme les autres. Hein? Donc, parfois, ça se passe bien, parfois, c'est plus difficile. Mais je pense que c'est vraiment dans la durée que s'établit un lien de confiance avec les élèves. Quand les enseignants sont aussi embarqués dans le projet, mais là, c'est un lien de confiance qui est plus facile à établir parce qu'on a déjà un contact en qui ils ont confiance et qui nous fait confiance à nous. Donc, ça facilite le déroulement de recherches qui impliquent, par exemple, l'utilisation d'approches plurilingues. Souvent, les élèves sont assez enthousiastes, surtout quand ils se rendent compte que ce qu'on fait, c'est utile. Donc, je pense qu'on gagne à expliciter aux élèves les raisons pour lesquelles on expérimente certaines choses. Puis aussi, les élèves souvent se sentent valorisés parce qu'on leur dit que grâce à leur participation en recherche, bien, ils vont aider des enseignants à aider d'autres élèves. Donc ça, c'est une manière de faire valoir l'importance de leur engagement aux élèves. Ensuite, c'est sûr que quand on enseigne quelque chose, c'est pas tous les élèves qui sont toujours très enthousiastes. Je pense à des recherches, par exemple, sur l'enseignement de l'écriture, où les élèves ont développé une relation plus favorable à l'apprentissage vis-à-vis de l'écriture, mais les élèves me voyaient arriver, puis des fois soupirer en disant « Ah, madame, on va encore écrire aujourd'hui! » Mais ça se passait bien parce que ce lien de confiance est là. Et quand je dis faire appel au répertoire linguistique des élèves, par exemple, dans des interventions, c'est toujours en proposant, c'est jamais en l'imposant. Donc, quand les élèves se sentent compétents, se sentent valorisés et ne se sentent pas brusqués, c'est aussi une manière d'aller établir une belle relation. Puis après, quand on les recroise, c'est toujours agréable, ils se souviennent de nous, on se souvient d'eux. Des fois même, on se souvient d'eux plus qu'ils se souviennent de nous parce qu'on les a tellement vus sur les vidéos puis on les a tellement analysés que pour nous, ils sont très proches alors que ça fait 2 ou 3 ans qu'on est allé dans leur classe.
Bien, c'est un point intéressant que vous venez de souligner, dans le fond, sur la recherche, le terrain, donc vous les filmez, il y a des entrevues, mais sur la période, sur combien de mois ça peut durer une recherche, par exemple?
Je pense que ça dépend des objectifs et des moyens, là, pour être très franche. Ça peut, idéalement, une intervention, un dispositif d'apprentissage gagne à s'implanter sur une assez longue durée. Donc, on parle, par exemple, de quelques mois pour que les élèves s'acclimatent à la présence du chercheur, pour atténuer les effets de désirabilité sociale, pour aussi que les élèves s'approprient ce qu'on leur enseigne. Donc, et puis c'est de cette manière-là aussi, en restant dans les milieux assez longtemps, qu'on établit des belles relations avec les gens, mm-hmm. qu'on apprend à se connaître. Donc, c'est des recherches qui, habituellement, s'étendent sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Mais tout dépend des moyens qu'on a, des objectifs qu'on poursuit aussi.
Les travaux que vous nous décrivez, Catherine, exigent une présence sur le terrain, on le voit. Et c'est d'ailleurs cette facette-là qui vous a attiré, qui vous a amené à choisir l'approche que vous pratiquez. Comment ça se passe en temps de pandémie? Avez-vous été obligé d'arrêter des recherches?
Non, on n'a pas dû arrêter les travaux, mais je pense que j'étais à une belle période dans ma carrière, en fait, pour en envisager des nouveaux compte tenu des circonstances actuelles. Par exemple, avec Joël Thibault, un collègue de l'Université d'Ottawa, on s'est assis au printemps dernier en se disant « Bon, on veut faire des recherches sur l'enseignement de la grammaire en tenant compte de la diversité linguistique. On n'a pas accès à des salles de classe. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller chercher des informations qui vont nous aider à développer des nouvelles connaissances puis à faire avancer le domaine de la didactique? » Donc, on a conçu un projet où on fait des entretiens virtuels, des récits de pratique avec des enseignants. Donc, ça a été une manière d'aller optimiser la situation, si on veut être positif. Mais c'est sûr que l'accès à des nouveaux milieux scolaires, notamment, mais à des milieux scolaires tout court aussi en ce moment, c'est pas nécessairement facile. Mais en même temps, ça nous donne aussi un temps pour nous poser, puis se demander comment, en fait, nous demander comment on envisage la suite.
Et vous l'envisagez comment, cette suite?
Mais en fait, avec des collègues ici à l'Université Laval, on est en train de penser à des nouveaux partenariats, notamment dans des centres d'éducation aux adultes. C'est une population d'élèves, d'apprenants, avec laquelle je me familiarise. À date, mes travaux portent surtout sur les élèves du primaire et du secondaire, mais bon, à Québec, ici, et avec l'expertise de mes collègues, je suis amenée à me pencher sur les apprenants adultes, et c'est aussi très intéressant. Moi, en même temps, ça me fait découvrir aussi d'autres champs. Et puis, c'est ça, on pense à des nouveaux partenariats, à des recherches-actions à aller mener dans de nouveaux milieux, notamment dans les régions, parce qu'il y a beaucoup de travaux en didactique du français au Québec qui ont lieu dans la grande région de Montréal. Il y en a moins qui ont lieu ailleurs dans la province. Donc, c'est un souci, une préoccupation positive, disons, qui nous habite puis qui nous amène à penser à des nouveaux projets qui pourront être mis en œuvre peu à peu dans les prochains mois, étant donné que la situation va s'améliorer, n'est-ce pas?
Est-ce que la réalité, justement, de l'enseignement du français langue seconde dans la ville de Québec serait différente que dans la ville de Montréal? Est-ce que la réalité fait en sorte que c'est différent dans les milieux?
Oui, c'est différent. C'est différent. Il faut y réfléchir pour voir que c'est différent, mais ce l'est. Par exemple, à Montréal, le nombre d'immigrants est très, très important, mm-hmm. ce qui fait en sorte qu'il y a une concentration d'élèves issus de l'immigration, donc des modalités de service offertes à ces élèves-là qui sont différentes de celles qu'on peut offrir ou qu'on offre actuellement à Québec. Okay. Par exemple, à Montréal, il est possible de former des classes d'accueil parce qu'il y a beaucoup d'élèves issus de l'immigration et on peut les regrouper pour leur offrir des services particuliers avant qu'ils soient intégrés dans des classes ordinaires. À Québec, les classes d'accueil sont réservées aux élèves qui ont des grands retards scolaires.
Okay.
Parce que les autres élèves, on les intègre directement en classe avec des services de francisation, qu'on appelle aussi des services de soutien linguistique. Donc, ils reçoivent ces services-là, que ce soit dans leur classe ou en dénombrement flottant, quand on les sort de la classe pour aller travailler dans un petit local, par exemple. Donc, une, deux, trois fois par semaine, donc d'intensités différentes selon les profils des élèves, mais c'est des grands défis pour ces enseignants-là qui doivent parfois travailler dans deux, trois, quatre écoles. Mm-hmm. Moi, de mon côté, comme enseignante, j'avais fait un contrat dans deux écoles en même temps, je trouvais ça énorme. Là, ici, j'arrive, je rencontre des profs qui ont trois, quatre, cinq écoles, je me mets dans leur peau, je me dis « waouh, ils ont tout un travail ». Donc, c'est d'apprendre à connaître ces nouveaux milieux, ces nouveaux besoins dans les milieux. Puis, aussi en raison de la régionalisation de l'immigration, entre autres pour ce qui est des réfugiés, ça fait en sorte qu'à Québec, il y a une population immigrante qui a quand même des caractéristiques un peu différentes.
C'est vraiment intéressant, puis c'est un complément d'information vraiment important en lien avec la recherche que vous faites, justement, par ville. Tu sais, moi, c'est un bout que je connaissais pas du tout, l'influence du contexte, justement, à quel point ça peut avoir un impact sur l'apprentissage des élèves, là.
Oui, puis Québec, ça reste quand même aussi une grande ville. Je veux dire, à Québec, il y a quand même un nombre significatif d'élèves issus de l'immigration. Mais après, quand on s'intéresse à des milieux comme Sherbrooke, qui peut ressembler un peu à Québec, mais après, comme Rimouski, comme Val-d'Or, comme Chicoutimi, on se retrouve dans des contextes où les défis qui se présentent aux élèves qui doivent apprendre le français langue seconde sont grands et où les services sont parfois plus restreints mm-hmm. pour des raisons simplement logistiques.
Oui.
Et où les défis sont grands aussi pour les parents de ces élèves-là. J'imagine que les parents ont aussi un rôle à jouer.
Les parents des élèves, ce sont nos premiers partenaires hein, dans les relations d'enseignement. Dans les villes comme Montréal, où il y a des communautés culturelles très diversifiées, avec un nombre important de personnes qui appartiennent à ces différentes communautés culturelles, il y a une forme de soutien qui est présent. Ensuite, c'est aussi le cas dans d'autres villes. Les organismes communautaires sont là, font un travail incroyable. Les parents des élèves, ce sont nos principaux partenaires dans la réussite éducative des enfants. Et il ne faut pas perdre de vue que bien souvent, ce sont aussi des immigrants eux-mêmes qui vivent un processus d'intégration, qui vivent leur processus d'immigration, et ça dans des contextes différents. Par exemple, dans les grandes villes comme Montréal, il peut y avoir des réseaux d'entraide où, par exemple, il y a des services dans certaines langues spécifiques qui sont accessibles assez facilement et où les personnes immigrantes sont entourées par des personnes qui sont passées par le même processus qu'elles. Après, quand on se retrouve dans des milieux où l'immigration est moins fréquente, les parents peuvent aussi, peut-être, parfois, se retrouver plus seuls, même si on veut bien les entourer. Et il existe des organismes communautaires qui font un travail formidable à plusieurs endroits du Québec. Les milieux scolaires, c'est un vecteur, c'est une manière d'aller intégrer les parents également, si on leur donne la possibilité de le faire, si on leur montre en fait comment ils peuvent aider leurs enfants dans leurs apprentissages, même si ces apprentissages-là se font en français. Donc, comment ils peuvent jouer un rôle dans ce nouveau parcours éducatif de leurs enfants. Et ça, ça peut se faire par l'école, tant à Montréal, à Québec, qu'au Saguenay.
Votre objet d'étude va donc au-delà des classes, c'est aussi la famille, le milieu, les ressources qui entourent ces élèves que vous observez, Catherine.
Oui, parce que comme dans tout programme d'éducation, par exemple pour les enseignants au préscolaire primaire, il y a des variables qu'on doit considérer qui jouent sur la réussite éducative des élèves, dont la collaboration avec les familles. C'est le cas aussi dans les contextes de langue seconde, bien entendu, parce qu'on a affaire à des élèves, ça reste des élèves, même si leur langue maternelle, c'est pas le français. Et pour ces élèves-là, il faut réfléchir à différentes manières d'aller considérer ces variables-là puis de les mettre à profit. J'essaie de dire ça très respectueusement et positivement, là, mais comment on peut se baser sur différents facteurs clés pour favoriser la réussite des élèves. Donc, c'est une réflexion très similaire, mais en même temps qui doit prendre en compte les caractéristiques particulières des apprenants de langue seconde.
Donc, on vous entend beaucoup parler sur la recherche, l'implication dans les milieux scolaires et autres, mais dans vos temps libres, qu'est-ce que vous faites?
Oui, mais un chercheur, comme tout être humain, a des loisirs. Et c'est important, je pense, pour rester sain d'esprit, parce que le travail prend beaucoup de place, parce qu'on y laisse, on laisse prendre beaucoup de place, parce que c'est passionnant ce qu'on fait. Mais dans mes temps libres, j'aime beaucoup le plein air et pour ça, on est choyé à Québec. Donc, la randonnée, le camping, l'hiver, le ski de fond. Et puis, je suis aussi une grande lectrice, donc ça me permet de m'apaiser, je pense, de lire, par exemple, un peu le soir avant de dormir pour laisser un peu le travail de côté, puis c'est ça, entrer dans d'autres univers. Donc, je dirais que pour l'instant et en temps de pandémie, ce sont les loisirs qui m'occupent.
Catherine Ménard, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vos recherches sont stimulantes et les réponses que la didactique du français langue seconde apporte sont assurément des plus utiles. Merci.
Merci beaucoup, merci pour l'invitation et au plaisir.
Facteur humain est la chaîne officielle de balado-diffusion de la Faculté des lettres et des sciences humaines de l'Université Laval. Pour plus de balado, visitez le flsh.ulaval.ca/web/diffusion.